Nous allons lire dans Matthieu 28, 18 à 20. C'est un passage que nous connaissons très bien. Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20.
Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Amen. Voilà ce que le Seigneur donne comme instruction aux apôtres. Il dit, tout pouvoir m'a été donné, faites de toutes les nations des disciples. C'est ça le projet de Dieu pour son Église, qu'on aille faire de toutes les nations des disciples. Avant d'être disciple, il faut d'abord être sauvé. Ensuite, il faut être encadré pour devenir un disciple et pouvoir sauver encore d'autres personnes. Donc c'est toute une armée, c'est toute une construction qui se fait là. C'est un travail qui est sérieux et long, parce que c'est jusqu'à ce que le Seigneur revienne. On va prendre l'aspect de la guerre pour expliquer ce travail-là. C'est comme une guerre. Et beaucoup de chrétiens ne saisissent pas ou bien n'intègrent pas la notion de guerre dans le travail que nous faisons. Le travail que nous faisons est aussi une guerre. Aller faire de toutes les nations des disciples, c'est une guerre. Et l'Ancien Testament est rempli, le Premier Testament est rempli d'exemples de guerre, et surtout les guerres principales concernant la terre, pour la conquête de la terre promise. Mais il faut comprendre que aujourd'hui, les territoires que nous voulons arracher, ce sont des humains. À l'époque, les territoires, c'était des grands terrains, des grandes régions, des pays. Mais aujourd'hui, les territoires, c'est les humains. Et donc, ça demeure une guerre. Donc, à l'époque, c'était une guerre physique. Il fallait récupérer des territoires promis par Dieu. Dieu a dit, je vous donne ces pays-là. Donc, il fallait récupérer ces territoires et aujourd'hui, c'est les humains. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Vous pouvez faire de toutes les nations. Allez faire de toutes les nations des disciples. Et ceux qui croiront, donc c'est écrit dans Marc 16, 15 à 20, hein, le passage est un peu parallèle. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. En fait, c'est ce que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël. Allez conquérir la terre promise. Allez prendre possession de la terre promise. À notre époque, il nous le dit par rapport à des humains. Allez prendre possession pour le Saint-Esprit, que l'Esprit possède les humains que j'ai créés. Voilà le travail. Et comment eux, ils ont fait pour faire ce travail-là? Ils ont dû faire des guerres. Ils ont dû faire des guerres parce qu'il y avait des gens dans cette place-là, dans ces territoires-là. Ils ont dû faire la guerre. Et nous aussi, nous sommes amenés à faire la guerre. Ce que nous faisons est une guerre. C'est pas juste une prédication, c'est pas juste des temps d'évangélisation, c'est des guerres que nous menons contre des forces des ténèbres. D'ailleurs, Éphésiens 6 nous le dit, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais des esprits, des forces des ténèbres. Dans 2 Corinthiens 10, 3 à 6, ça nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons, donc nous sommes bien en guerre. Mais c'est quelque chose que beaucoup négligent parce que, comme on va le voir, il y a la distraction. Comme on va le voir, il y a aussi l'usure. Donc avec le temps, on finit par perdre les objectifs de départ. Et nous voulons rappeler cela. Et nous voulons rappeler un point très important, c'est que cette guerre est une guerre longue. C'est ça le thème d'aujourd'hui. C'est une guerre de longue durée. Nous allons lire Josué au chapitre 11, 15 à 20. Cette guerre est une guerre de longue durée.
Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne, de tout le Midi, de tout le pays de Goshen, de la vallée, de la plaine, de la montagne d'Israël et de ses vallées, depuis la montagne nue qui s'élève vers Séir jusqu'à Baal-Gad, dans la vallée du Liban, au pied de la montagne de l'Hermon. Il prit tous les rois, les frappa et les fit mourir. La guerre que soutint Josué contre tous ces rois fut de longue durée. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Éviens. Ils les prirent tout en combattant. Car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévoue par interdit, sans qu'il y ait pour eux de miséricorde, et qu'ils les détruisent comme l'Éternel l'avait ordonné.
Alors, on nous dit le verset principal aujourd'hui, au verset 18, la guerre que soutint Josué contre tous ses rois fut de longue durée. Ça a été une guerre de longue durée. Voilà notre thème d'aujourd'hui. La guerre que nous menons pour sauver les âmes, pour faire de toutes les nations des disciples, bref, pour faire la volonté de Dieu sur terre, c'est une guerre de longue durée. Beaucoup ont négligé cette question de durée. C'est très long. Et je dirais même, c'est une guerre de toute notre vie. C'est une vie. Toute notre vie, nous sommes en guerre jusqu'au bout. Vous savez qu'il y a eu des guerres autrefois. Il y a eu des guerres entre la France et l'Angleterre. On a appelé la guerre de 100 ans. Mais normalement, ça a duré plus que 100 ans. Donc vous imaginez les hommes, si entre eux, ils ont pu faire une guerre de 100 ans. Vous savez que pendant ces 100 ans-là, mais tout se fait. Donc les gens se marient, les gens mangent. Vous savez, la guerre et la construction, c'est les deux domaines qui font intervenir tous les autres domaines. C'est-à-dire que pendant la guerre, tous les autres secteurs fonctionnent. Et pendant les constructions, tous les autres secteurs fonctionnent. C'est pourquoi aux États-Unis, on mesure l'économie américaine en fonction des constructions qui se font, en fonction des bâtiments, en fonction du secteur des bâtiments. Plus le secteur bâtiment se porte bien, plus tous les autres secteurs vont se porter bien aussi. Donc l'électricité, puisque dans les bâtiments il y a l'électricité, le transport, puisque pour construire on utilise le transport, ça déplace les gens. Donc le secteur bâtiment et le secteur de la guerre sont deux domaines qui font intervenir tous les autres secteurs. Même l'économie américaine a fait un grand saut à cause de la guerre de la Deuxième Guerre mondiale, ça faisait intervenir tous les secteurs et même ça a permis de reconstruire aussi l'Europe. Donc, la guerre et la construction, c'est les secteurs qui font intervenir tous les autres. Et ça peut prendre du temps. Vous savez, les gens qui prennent une certaine route, par exemple, à une époque, je faisais souvent Paris-Rouen, il y avait une route qu'on construisait. Mais j'avais l'impression que depuis que je connaissais ce chemin-là, cette route, elle était toujours en construction. Ça peut prendre 8 ans, la construction d'une route. Ça peut prendre 30 ans, la construction d'un bâtiment immense. Ça peut prendre 10 ans, la construction. La construction et la guerre, c'est deux choses qui sont à peu près semblables. Ça peut durer longtemps. Et en prenant du temps, ça peut fatiguer. Combien de maisons n'avons-nous pas vues inachevées? Parce que ça prend du temps. Et la personne se fatigue. Combien de routes ont traîné? Je me souviens de certains... le métro d'Israël pour que ça finisse. Mais ça a mis du temps. Toutes ces grandes constructions peuvent mettre du temps et à cause de ce temps-là, créer encore du temps puisque les gens se fatiguent. Puisqu'entre-temps, les gens se corrompent, ils prennent l'argent, ils l'utilisent pour autre chose. Donc comme c'est des choses qui prennent du temps, ça laisse la place à beaucoup de paramètres qui peuvent gêner même la construction qu'on est en train de mener, la guerre qu'on est en train de mener. Et il est écrit qu'au verset 18, la guerre que soutint Josué contre tous ses rois fut de longue durée. Pourtant, il a gagné, c'est écrit au verset 15. En exécutant les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur et de Moïse à Josué, il ne négligea rien. Donc Josué exécuta tout ça, sans rien négliger. C'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays. Donc il a gagné. Il s'est emparé de tout le pays. Mais attention, on nous dit au verset 18, « La guerre que soutint Josué contre tous ses rois fut de longue durée. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël. » On nous dit que il n'y aura pas de cadeau pour nous dans la conquête des âmes. Il n'y aura pas de cadeau. Nulle part les démons nous diront, c'est bon, on ne se bat pas. Les démons se battront. Avant de lâcher une âme, ils vont se battre. Il n'y aura pas de cadeau. Comme là, il n'y a pas eu de cadeau. Ça nous est dit clairement. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Éviens. Ils les prirent tout en combattant. Ça, c'est un enseignement pour nous. Tout a été pris en combattant. Nous sommes en guerre. Et pour ceux qui n'aiment pas trop le langage guerrier, nous sommes en construction. Et toute construction, toute partie de la construction se fera dans le dur labeur. On va se battre pour construire chaque élément. Les électriciens vont travailler sérieusement. Les plâtriers vont travailler sérieusement. Il n'y a pas de partie qui sera un cadeau. Tout sera un travail sérieux. Et il nous est dit au verset 20, « Car l'Éternel permit que ce peuple s'entête à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les détruise tous, sans qu'il y ait eu pour eux de miséricorde, comme l'Éternel a ordonné à Moïse. » Mais Dieu fait sa guerre jusqu'au bout. Et il permet parfois que ça traîne pour que tout soit balayé. Il est dit « Maudit quiconque retire son épée du carnage » dans Jérémie 48:10. Donc Dieu permet que ça traîne aussi parce qu'il veut nous amener à une sécurité d'avenir. Donc tu balayes tout, tu es en sécurité une fois pour toutes. C'est le travail que Dieu nous offre, Dieu nous demande de faire. Mais ça a été une guerre de longue durée. Même si Dieu avait dit « Je vous donne la terre promise », il fallait combattre. Alors, je veux nous rappeler aujourd'hui que nous avons à combattre. Nous avons à combattre. Et ça prendra du temps. Il faut s'armer de cette pensée-là, que ça prendra du temps. Nous sommes un élément de la guerre. Nous ne sommes pas toute la guerre. La guerre a commencé depuis. Depuis le jardin d'Éden, la guerre a commencé. Il y a des gens qui ont combattu avant nous, toute leur vie. Et nous, nous prenons le témoin et nous sommes appelés à combattre toute notre vie. C'est une guerre de longue durée. Et vous savez, dans une guerre de longue durée, il y a des événements il y a des batailles qu'on va perdre en apparence, puisque Dieu ne perd jamais, mais nous les humains, en apparence, nous allons le perdre. Ces batailles, ou parfois par notre faute. Mais nous devons comprendre que la guerre est de longue durée. De même que ça paraît de longue durée, ça nous donne l'impression que c'est trop dur parce que c'est de longue durée. Mais de la même manière, lorsque nous subissons quelques coups, quelques apparentes défaites, souvenons-nous que ce n'est pas fini. La guerre est de longue durée. Nous avons le temps de nous ressaisir et de continuer la guerre. Ne nous disons pas, j'ai été vaincu là, et je m'arrête. Ah non, la guerre est de longue durée. Il faut résister, et après faire la contre-attaque. Il est écrit, le diable rôde comme un lion rugissant, résistez-lui avec une foi ferme, il fuira. On commence par résister, et puis on va en contre-attaque. Je l'ai déjà raconté cette histoire-là, la femme de Mao en 1972, le président de la Chine de l'époque, elle avait dit que le christianisme était fini en Chine. On a réussi à éliminer tous les chrétiens de la Chine. C'est ce qu'elle pensait, c'est ce qu'elle voyait. Mais la guerre n'était pas finie. La guerre, comme on lit, sera de longue durée pour tout le monde. Les forces des ténèbres aussi vont comprendre que c'est de longue durée, c'est pas fini. Même quand elles pensent qu'elles ont réglé le compte des chrétiens, ce n'est pas fini. C'est une guerre de longue durée dont nous connaissons la victoire. La finalité, c'est notre victoire. Dans Apocalypse 20, on nous explique que finalement, Satan va réunir les gens du monde entier. Ils vont venir attaquer les chrétiens et le feu viendra du ciel, les consumera tous. Ça sera la fin de cette guerre-là. Pour le moment, on est en guerre jusqu'à Apocalypse 20. On sera en guerre. On est en guerre. Il y aura des mouvements dans cette guerre-là. Il y aura des mouvements comme en apparence, les chrétiens sont perdus. Il y aura des contre-mouvements. On aura l'impression aussi que les forces des ténèbres, c'est fini. Mais tant qu'Apocalypse 20 n'est pas encore arrivé, elles sont toujours là. La guerre sera toujours là. C'est ça qu'on vient de lire. Dieu a permis que ces gens-là soient toujours là. Que Israël ne finisse pas le job rapidement, mais qu'il soit là pour continuer à affermir Israël, lui permettre de rester dans la sainteté, d'en rester dans le feu de Dieu, de rester dans la droiture. La guerre a été de longue durée. Et cette dame-là a dit c'est fini pour les chrétiens. Ça, c'est en 72. En 76, je crois, elle-même, qu'elle est morte peut-être. Mais en 79, il y a eu un nouveau président. Ce nouveau président, Deng Xiaoping, a libéralisé à nouveau le christianisme. Il a dit, bon, les chrétiens peuvent à nouveau aller prier dans les bâtiments qui avaient été fermés autrefois. Mais bien aimé, le premier jour, ces bâtiments-là étaient remplis. Pour un pays où les chrétiens n'existaient plus, c'était étonnant. Le premier jour où on ouvre le bâtiment, c'est déjà rempli. En réalité, la guerre continuait, mais dans les maisons. Les bâtiments avaient été fermés, mais les maisons étaient toujours là. Les gens continuaient à prier dans les maisons, dans les grottes, dans les forêts, dans les rivières. La guerre sera de longue durée. Et nous sommes aussi la bouche du Seigneur pour dire aux forces des ténèbres, ben la guerre sera de longue durée. Ce n'est pas fini. Le Seigneur est vivant. Il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Tout pouvoir m'est donné. Et je serai avec vous tous les jours. Mais je disais, ça prend du temps. Et quand ça prend du temps, beaucoup se fatiguent. Ça s'appelle l'usure. Quand en français, on a dit, quand on dit l'expression, on l'a eu à l'usure. Ça veut dire que, à force de résister à quelque chose, pendant longtemps, on s'est fatigué, on est tombé. Ça s'appelle, on l'a eu à l'usure. Et ça fait partie des grandes armes du diable, l'usure. Le diable est un esprit. Les démons sont des esprits. Eux, ils n'ont pas de problème avec le temps. Ils sont toujours là, ils sont là. Jusqu'à ce que, comme j'ai dit en Apocalypse 20, ben ils seront envoyés dans les temps de feu définitivement. Mais tant que Apocalypse 20 n'est pas encore arrivé, ils sont là. Et il y aura aussi une période de 1000 ans où ils seront bloqués dans l'abîme. Mais cette période n'est pas encore arrivée, donc ils sont là. Et eux, comme ils n'ont pas le problème avec le temps, ils vont attendre, ils vont chercher à nous avoir à l'usure. Au fait, c'est leur arme ultime. Donc c'est leur dernière arme après avoir essayé plusieurs choses sur toi. Si ça ne marche pas, ben ils vont patienter. Ils vont attendre et continuer à te tenter, organiser ta chute. Ils vont prendre leur temps à te miner petit à petit jusqu'après 20 ans. Tu es déjà une autre personne, tu as été vaincu. Ils vont chercher à t'avoir à l'usure. Et ils ont eu beaucoup de chrétiens comme ça. Qu'est-ce qui explique que, bien-aimés, on a l'impression que les nouveaux chrétiens sont beaucoup plus chrétiens que les anciens. C'est à cause de ça, c'est à cause de l'usure. Les nouveaux chrétiens n'ont pas encore beaucoup combattu, donc ils sont bien. ils ont la foi fraîche, mais avec l'usure, les combats de tous les jours, la guerre de tous les jours, les vieux chrétiens finissent par être atteints. Parce qu'ils ont négligé le côté durée. La guerre est longue. Il ne faut pas négliger ça. Donc il faut se réveiller chaque matin en disant la guerre est longue. La guerre est de longue durée. Parce que beaucoup se sont réveillés le matin et se sont dit « Oh, tout est bon maintenant dans ma vie. Ça c'est bon, ça c'est bon. Gloire à Dieu. » Maintenant l'église est devenue juste un moment de traditionnel. Donc on vient juste traditionnellement prier, chanter. Dieu a réglé tout. J'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai ceci. Je suis grand-père, je suis grand-mère. Donc, et les gens négligent que la guerre continue. La guerre continue. Donc, c'est-à-dire que quand toi tu baisses les bras, la guerre continue. C'est ça qu'on appelle l'usure. Donc, avec le temps, tu baisses les bras. Donc, un chrétien doit devenir chrétien chaque jour en quelque sorte. Chaque jour, il doit devenir un nouveau chrétien pour faire qu'il ne s'use pas, qu'on n'aille pas à l'usure. C'est pourquoi notre titre, c'est « La guerre sera de longue durée ». Donc, il faut qu'on réintègre cette notion dans notre marche avec le Seigneur. C'est une guerre de longue durée. Vous savez, quand quelqu'un est préparé que c'est une guerre de longue durée, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il sait dans sa tête que c'est une guerre de longue durée, il va préparer les provisions. Il va préparer les choses qui vont lui permettre de tenir. Mais quand la personne ne sait pas que ça va être long, qu'est-ce qu'il fait? Il compte sur la force du moment pour écraser rapidement l'ennemi et c'est bon. C'est comme ça que les Allemands ont perdu face aux Russes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils se sont dit, on va faire une guerre éclair et puis on va terrasser les Russes et puis c'est bon. Mais le problème, c'est qu'ils avaient négligé l'hiver en Russie et la guerre éclair s'est transformée en une guerre qui traîne. Et en traînant, mais vous traînez là où les gens, eux, ils sont habitués déjà au froid. Mais vous n'êtes pas habitués à leur froid. Et en traînant, les Allemands ont été vaincus. Ça a été le tournant de la Deuxième Guerre mondiale. La durée, ça joue. Ça joue. Et donc, chaque jour, nous devons nous dire, elle est de longue durée. Combien de fois on a eu l'impression que tout est bon? Et puis une semaine après, patatras, mauvaise nouvelle. C'est là pour nous rappeler que la guerre est de longue durée. Nous devons nous armer de cette pensée-là. En même temps, face aux certaines défaites apparentes, puisqu'avec Dieu on n'échoue jamais, avec Dieu il n'y a pas de défaite, mais c'est des choses que Dieu peut permettre pour nous éprouver ou bien pour nous faire avancer spirituellement ou pour nous réveiller. Quand on est face à tout ça, on dit, ben, c'est pas grave. La guerre est de longue durée. On va se battre jusqu'au bout, combattant jusqu'à la mort. L'apôtre Paul, quand il est mort, il a dit, j'ai combattu le bon combat. Jusqu'au bout, j'ai gardé la foi. La guerre, il savait, lui, que la guerre était de longue durée. Parce que eux, ils attendaient Jésus revenir de leur vivant. Mais il n'est pas revenu de leur vivant. Donc, ils ont intégré le fait que la guerre était de longue durée. Donc, il fallait tenir dans la foi, résister et combattre. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous donne plusieurs versets de combat. Éphésiens 6, 2 Corinthiens 10. Nous avons des armes pour nous battre. Allez faire de toutes les nations des disciples. Les promesses de Dieu sont comme des plans d'architecte. C'est-à-dire, quand on veut construire un bâtiment, donc là je vais adopter un langage de construction pour apaiser un peu les gens qui ont peur de la guerre. Donc, quand Dieu donne une promesse, c'est comme s'il te donne un plan de bâtiment à construire. Et avec tous les moyens, donc il ne te donne pas seulement le plan, mais tous les moyens qu'il faut pour construire ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on te demande à toi? La foi et l'action, la mise en œuvre. On te demande C'est comme quand les gens font le théâtre. Ce qu'on appelle la mise en scène, c'est quoi? J'ai le texte du théâtre et je mets les meubles, les humains, je les positionne de sorte à mettre en scène ce que j'ai dans le texte. Mais Dieu a tout prévu. Les moyens, il a prévu aussi le plan. Maintenant, qu'est-ce que lui cherche? Les ouvriers. La moisson est grande, mais c'est les ouvriers qui manquent. Nous sommes tous des ouvriers. Le plan est là. Allez faire de toutes les nations des disciples. Ça, c'est le plan le plus général. Après, chacun a son plan particulier. Ou certains groupes ont des plans particuliers. Il y a des gens qui souvent sont appelés à aller traduire la Bible dans des tribus où ça n'a jamais été fait. Il y a des gens qui vont être appelés à aller évangéliser dans des endroits où c'est une religion païenne qui est dominante. Chacun va avoir son plan particulier, mais le plan général, c'est aller faire de toutes les nations des disciples. Dieu nous a déjà donné. Et il nous a déjà donné les moyens parce qu'il a dit, il sera avec nous. Je serai avec vous, je serai avec vous tous les jours. Et il dit dans Matthieu 28, au verset 18, tout pouvoir m'est donné. Ça veut dire qu'il nous donne ce pouvoir-là. Donc quand il nous donne l'ordre d'aller faire de toutes les nations des disciples, il nous donne aussi les moyens. Mais il demande à nous de nous mettre à part pour cela. C'est ça qu'il nous demande. Veux-tu te mettre à part pour cette mission? C'est ça que Dieu cherche. La mise en œuvre. Qui mettra en œuvre le projet de Dieu? Il cherche des ouvriers. C'est ça notre boulot. C'est ça notre rôle. Qui va construire? Qui enverrai-je? Dieu dit, qui ira pour nous? Qui ira combattre pour nous? C'est la question que le Seigneur pose dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe dit, mais voici Seigneur, j'irai combattre. Qui combattra pour nous? Qui enverrai-je? Voilà la question du Seigneur. Il cherche des ouvriers, il voyait le peuple comme un troupeau sans berger. Il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il cherche des ouvriers, le Seigneur. Le plan est déjà là. Et les plans particuliers, chacun dans son domaine, sont là déjà. Le pouvoir est là. La puissance est là. Les moyens sont là. Ce qui manque, c'est les ouvriers. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous on dit? Ah non, mais on est là, mais ce qui manque, c'est le bâtiment. Mais on est là, mais ce qui manque, c'est l'argent. On est là, mais ce qui manque, c'est la puissance de guérir les malades. Ah, si on pouvait guérir comme le Seigneur, les gens viendraient rapidement à Christ. Et on dit des choses à l'inverse de ce que le Seigneur dit. Le Seigneur lui dit le contraire. Il dit, le plan est là, la puissance est là, les moyens sont là, mais ce qui manque, c'est les ouvriers. Entre nous et le Seigneur, qui est beaucoup plus intelligent, qui sait mieux ce qu'il faut, c'est le Seigneur, bien-aimé. Il voit tout, il lit dans le cœur, il connaît tout. Lui se plaint du manque d'ouvriers. Nous, on se plaint du manque de moyens. Certains même se disent, ah, mais moi, je ne connais pas ce que Dieu attend de moi. Je ne connais... Mais bien-aimé, ce que Dieu attend de toi, c'est d'être un ouvrier dans sa moisson. Ce n'est pas compliqué de jouer un rôle pour le plan général qui est d'aller faire de toutes les nations des disciples. Peut-être que ton rôle à toi, c'est de tenir le micro, de tenir le volant d'un minibus. Peut-être ton rôle à toi, c'est de cuisiner, mais l'objectif doit être atteint. Que ce que je fais contribue au plan général. Donc quand on dit, je ne sais pas trop ce que Dieu attend de moi, en général, on ne veut pas bosser. C'est clair ce que Dieu attend de nous. Il nous a donné le plan. Il dit, qui enverrai-je? Il manque les ouvriers. Et le monsieur qui avait enterré le talent qu'on lui avait donné dans Matthieu 25, qu'est-ce qu'on lui avait dit par le maître quand il est revenu? Il a dit, mais pourquoi tu as enterré? Il a dit, mais je ne savais pas quoi faire. Je ne voulais pas prendre le risque de mal utiliser le talent que tu m'as donné. Alors j'ai enterré. Mais le maître a dit, mais monsieur, pourquoi vous n'avez pas donné au banquier? Le banquier lui a reçu. Comment fructifier cela? Mais quand on ne sait pas faire ce qu'on doit faire pour notre vie, allons voir un serviteur de Dieu qui, lui, sait ce qu'il fait avec Dieu pour qu'il nous utilise dans ce qu'il fait avec Dieu, pour qu'on soit utile. Sinon, on est inutile, on est enterré. Mais Mais la guerre est longue. Et il faut savoir que quand nous, on est enterrés, l'autre continue à agir. Il faut savoir que les moyens de défense que Dieu nous a donnés face à l'ennemi, ça se trouve aussi dans la mission que Dieu nous a donnée. Vous croyez que les instructions du Seigneur, c'est pourquoi? C'est des instructions aussi défensives. Quand le Seigneur dit, tu seras vainqueur du mal par le bien, ou bien tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est une instruction, oui, positive, d'amour, d'action, mais c'est aussi une instruction de défense, parce qu'il sait que face à Satan, la seule arme qui triomphe de Satan, c'est l'amour. Il ne nous donne pas qu'une instruction pour manifester de l'amour comme ça. Il nous donne en même temps une instruction défensive. Imaginons que quelqu'un ne comprenne pas cela. Il se dit, mais l'autre ne veut pas de ma manifestation d'amour. Bon, je ne fais plus cas de lui. Je m'en fous, comme on a l'habitude de dire. Malheureusement, quand on fait ça, on diminue la puissance de Dieu en nous, et les forces des ténèbres dans la personne continuent à agir contre nous. Et le problème continue. Quand Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même, sois vainqueur du mal par le bien, voilà, le terme même le dit, vainqueur du mal par le bien. Ça veut dire que le bien, non seulement c'est le bien, c'est beau, mais c'est une arme contre le mal. Mais quand on néglige ça, on finira par subir. Donc le Seigneur a établi chaque chrétien avec un don, avec une capacité. Et quand cette capacité fonctionne, ça permet la maintenance aussi du chrétien face aux forces des ténèbres. Ça lui donne la force de tenir aussi. Mais quand cette capacité ne fonctionne pas, ça diminue sa force. Nous connaissons le langage. Un outil qui n'est pas utilisé, ça rouille. Ça devient... L'engrenage rouille et ça ne marche plus. Donc arrêtons de dire que moi je suis là, mais c'est le moyen qui manque, c'est la vision qui manque, c'est faux. Il y a la vision qui est là, le plan général qui est là, à l'effet de toutes les nations des disciples, et il y a des plans particuliers qui sont là. Et si toi tu ne vois pas un plan particulier, comme Jésus a dit dans Matthieu 25, mais va voir des gens qui, eux, ils ont un plan. Ils vont t'inclure dans ce plan-là. Au moins, tu vas produire un fruit quelque part. Et il est écrit, celui qui ne produit pas le fruit, il est coupé. Et vous savez que Dieu est bon. Il ne cherche pas à nous couper. Mais on se coupe soi-même. Quand il dit, il est coupé, ben c'est nous-mêmes qui nous coupons. Parce que au moment où on doit faire passer la sève pour nourrir les branches qui viennent après nous, nous ne faisons rien passer. Finalement, les branches qui viennent après nous sont en train de mourir et vont nous atteindre puisqu'on est collé à ces branches-là. Nous aussi, on va mourir. C'est ce qui se passe. Beaucoup négligent le côté durée longue de la guerre. La guerre est de longue durée. C'est pas parce que tu as eu une victoire aujourd'hui que c'est fini. La guerre est de longue durée. Chaque jour, il y aura des combats. Nous devons être nous armer de la même attitude de combat chaque jour. Nous sommes des guerriers, nous sommes des combattants, nous sommes des constructeurs. Les promesses du Seigneur, lorsqu'elles ne sont pas accomplies, qu'est-ce que ça fait? Ça nous produit la tristesse. Et quand ça nous produit la tristesse, ça ronge notre foi. Et quand notre foi est rongée, on finit par être vaincu par les forces des ténèbres. Parce que c'est écrit dans 1 Jean 5,4, qu'est-ce qui triomphe de ce monde? C'est notre foi. Résistez-lui avec une ferme foi. C'est encore écrit. Nous sommes vainqueurs par la foi. Et donc, quand nous négligeons la longueur de la guerre, nous allons entrer. Vous avez eu dans une guerre, comme je viens de le dire, et dans pendant une construction, puisque ça prend du temps, il y a des mariages qui vont se faire. Il y a des défilés de mode qui se font même pendant la guerre, ne vous en faites pas. Donc, suivez les documentaires sur les guerres longues, les deuxièmes guerres mondiales, vous allez entendre toutes sortes de choses. Il y avait toujours des spectacles qui continuaient. Et même, parfois, là où les soldats se battent, il y a des visites, des stars d'Hollywood qui viennent. Donc, la vie continue. Il faut manger. Il faut s'habiller. La vie continue, mais il y a la guerre, mais la vie continue. Le danger, c'est quoi? C'est que, c'est ce que je vais donner, le danger, c'est la distraction. pendant la guerre, il y a aussi des marchés noirs qui s'installent. On commence à vendre des produits rares et gagner beaucoup d'argent. On oublie qu'on est en guerre et on se met dans les commerces. La distraction vient. Et c'est ce qu'on trouve aujourd'hui. Les églises, au lieu de chercher à faire de toutes les nations des disciples, sont devenues, ont pris comme projet de faire un très beau bâtiment, de faire quelque chose qui va rendre gloire à eux-mêmes qu'ils ont bâti quelque chose d'extraordinaire. On n'est pas contre un beau bâtiment, mais si ça devient notre projet principal, il y a un problème. Notre projet doit être aller faire de toutes les nations des disciples. Le bâtiment doit servir à cela, mais le bâtiment ne doit pas être un objectif en soi, comme si c'est ça qui fait qu'on est une église. Pas du tout. Ce qui fait qu'on est une église, c'est Matthieu 28, 18 à 20. Quand on respecte cela, on est en train de fonctionner pour faire de toutes les nations des disciples. Attention, pendant la guerre, comme c'est long, il y a beaucoup d'autres distractions. Et aujourd'hui, beaucoup de chantres, au lieu d'être comme les chantres de Josaphat, qu'est-ce que le Seigneur avait fait le jour de la guerre face aux Ammonites et consorts? Ils ont mis les chantres avant. Et ces chantres-là étaient avant même les soldats. Ils disaient louez l'Éternel, car il est bon, sa miséricorde dure à toujours. Et pendant qu'ils chantaient, les ennemis ont été vaincus. Les soldats n'ont eu même pas à combattre. Les chants, les chantres, les musiciens devaient être notre avant-garde. C'est eux qui devaient être le premier. On va aller dans un territoire, ils vont le premier, ils vont louer Dieu, faire descendre Dieu par la louange. Et quand nous on arrive, on trouve le terrain déjà balayé. Non. Aujourd'hui, le projet des chantres, des musiciens, c'est avoir les plus belles voix. Aujourd'hui, leur projet, c'est sortir des CD, devenir des stars. Mais c'est la distraction. Ce n'est pas le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est Psaume 122. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Le projet de Dieu, c'est quoi? Psaume 18, 4. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Donc quand tu loues Dieu, tu es délivré de tous tes ennemis. Maintenant, imagine, maintenant, tu ne loues plus Dieu véritablement, mais tu es dans une carrière musicale. Donc tous ces ennemis-là dont tu devais être délivré par le don de louange que Dieu t'avait donné, ben, ils sont là. Et ils vont te massacrer. Et voilà ce qu'on retrouve à gauche, à droite. Tous ces chantres qui sont massacrés par l'argent, massacrés par l'impudicité, massacrés par le monde. Parce que les ennemis qu'eux devaient vaincre par leur louange, mais ils ne les ont pas vaincus, ils ont plutôt fait carrière. La distraction va venir s'installer. Au lieu de participer à Matthieu 28, 18 à 20, on va dire comme Pierre à Jésus, à la montagne de Transfiguration, « Seigneur, si on peut rester là, on va faire une tente, trois tentes, une pour toi, une pour Élie et pour Moïse, et on reste ici. » Jésus a dit « Non, mes chers amis, nous on est en guerre. Le repos n'est pas encore arrivé. On est en guerre. Et allons régler le compte. » Parce qu'en bas, là, il y avait déjà un problème. Un enfant qui était possédé et les disciples n'arrivaient pas à sortir l'esprit. Jésus leur dit, allons là-bas. La guerre continue. On est sur terre, on est en guerre. La distraction. On ne sait plus pourquoi on est quelque part. On ne sait plus pourquoi on se réunit. Ça devient la religion. C'est la distraction. Souvenons-nous qu'on est en guerre. Et c'est une guerre de longue durée. Il y a, comme je l'ai dit, l'usure. À force d'affronter les mêmes ennemis, on finit par familiariser avec ces ennemis-là et ne plus les voir comme des ennemis. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens, hein, on connaît l'exemple avec les luthériens. Quand Luther a commencé le ministère, il a considéré le pape comme qui ? Comme l'antichrist. Quand John Wesley a commencé le ministère, le méthodiste, il a considéré le pape comme qui ? Comme l'antichrist. Donc tous ces gens-là, les méthodistes, les calvinistes, bref, les protestants, les évangéliques, la plupart, quand ils commencent avec le feu de Dieu, ils disent le pape, c'est l'antichrist. Mais à force d'être combattu par la même force, aujourd'hui, les méthodistes considèrent que le catholicisme, c'est aussi une église de Dieu. Œcuménisme. Aujourd'hui, les luthériens, oh, n'en parlons pas, eux, ils sont vraiment main dans la main avec les catholiques. Parce que, avec ça, ça s'appelle quoi ? L'usure. Avec le temps, on finit par se fatiguer, baisser la garde et même considérer ses ennemis comme ses amis parce qu'on en a, on est fatigué de se battre avec le temps. L'argent que tu repoussais au début du ministère, avec le temps, ça devient oui, mais il faut comprendre qu'il y a un temps pour tout, on a souffert avant, mais maintenant, non. L'argent devait rester ton ennemi jusqu'au bout. C'est comme ça. Ça s'appelle l'usure. Et c'est ce que je veux aujourd'hui combattre à travers cette prédication. Attention à l'usure. Où on s'habitue à la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas quelque chose de nouveau chaque jour. Mais c'est devenu quelque chose de routinier. C'est l'usure. Et avec l'usure, on ne voit plus les ennemis. Et avec l'usure, on est distrait. Avec l'usure, on perd la foi. Et quand on perd petit à petit la foi, ben, c'est la mort spirituelle. Attention, bien-aimés. Pendant que la guerre continue, il y a des coups bas. Il y a même des espions, il y a des infiltrés. Donc, des espions qui travaillent. Il y a des infiltrés qui travaillent. Vous savez, en plein travail au Gabon, on est parti, on a fait un travail dans un village. On a prêché, on a mis une tente, les gens sont venus dans la tente, on a prêché. Et à la fin, on a fait l'appel au salut, quelques personnes se sont levées. Et il y a un monsieur de plus de 70 ans qui était habillé un peu à l'italienne avec des bagues en or, qui se lève, qui dit « Oh, moi je dormais !» Mais il y a une force qui m'a réveillé. Et quand je m'habille très bien, et quand je sors dans la rue, je vois un de vos frères qui me pousse à venir à la tente ici, là. Vraiment, j'ai été touché. D'ailleurs, la fois prochaine que vous venez, je vous laisse mon terrain pour faire votre travail. Moi, je me suis dit, il nous laisse le terrain dans le sens où il nous laisse travailler là, la fois prochaine. Et à la fin, le frère qui modéré vient me voir, mais le vieux là, il dit qu'il veut nous donner son terrain en cadeau. Il dit, ah bon ? Ben, essayez de voir avec un frère. Ils vont le voir, ils disent, non, je veux parler plutôt au pasteur. Je m'approche là, mais c'est quoi le problème ? Oui, je veux vous donner mon terrain, moi, je suis content de ce qui s'est passé. Et puis, voilà, moi, je suis malade, je dois aller me faire soigner en Afrique du Sud. Et il me faut juste 1 million, 1,5 million comme ça, et puis de francs CFA. Hein. C'est quoi 1 million ? 1,5 million, c'est 10 000 euros, je crois, voilà. 1 million, 1,5 million. Non, plutôt 1 000 euros. 2 750 euros. Alors, il me dit, mais il me faut 2 750 euros, ou bien, voilà, ou bien 2 000, quoi, environ. Bon. Là, on est mercredi, hein. Mais il dit, mais il me le faut le vendredi, puisque vendredi, je serai à Libreville et puis on peut se voir là-bas. Moi, je vous amène tous les papiers. Et puis moi, j'en ai juste besoin pour payer le reste de mes factures pour l'hospitalisation en Afrique du Sud. Il m'a dit, mais vieux, mais si vous êtes malade, est-ce qu'on ne peut pas prier ? Ah non, vous avez bien vu que je suis chrétien, j'ai prié. Maintenant, là, il faut que je me soigne. Donc, j'ai déjà réservé les choses le mardi, je dois partir. J'ai déjà donné même la même réponse à ton frère. Il m'a dit, ah bon ? Ok, parce que ça restait une aubaine, même si c'était 2 700 euros, ça restait une aubaine. On rentre à la maison, on parle avec Carole, et puis on se dit quand même, bon, il y a un frère qui doit se faire baptiser le jeudi, qui est du même village. On essaierait de lui poser la question. Le jeudi, on discute avec le frère, mais c'est comment tu connais le vieux qui... Tel vieux, il nous a... Mais en discutant avec nous, il a dit, il ne veut pas que son affaire se sache. Je ne veux pas que les gens d'ici la connaissent, ce que je traite avec vous. Moi, je vous laisse les choses, mais donc vous gardez ça pour vous. On a dit, mais non, vous savez, bien aimé, quand quelqu'un te dit, tu ne dis rien, quand ça ne t'engage à rien, il n'y a pas de problème. Par exemple, moi, je suis malade, je te dis ma maladie et je te dis garde pour toi. Là, il n'y a pas de problème. Mais si je te dis quelque chose qui va t'engager, toi, à voyager, à payer beaucoup d'argent, ou bien à prendre le risque par rapport à tes enfants, et je te dis de ne pas dire, ah non, 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 non. Tout ce qui va faire que toi, tu vas faire quelque chose, tu dois te faire une enquête pour ça. Si toi, ça t'engage à rien, ma maladie, par exemple, ne t'engage à rien, là, il n'y a pas de problème. Mais si ça t'engage à dépenser, ça t'engage à faire quelque chose qui peut te créer des problèmes, tu dois prendre des renseignements avant d'avancer quoi que ce soit. Donc, quand quelqu'un nous dit même, ne dis rien, alors que ça nous engage à quelque chose, comprenons qu'il y a un problème. Au contraire, il faut enquêter. Donc, on pose la question au frère. Le frère dit, oh, mais le vieux, là, ça fait... Il a déjà vendu ce terrain à plusieurs personnes. D'ailleurs, il avait été traîné dans les tribunaux il y a un temps, et puis... Au moment où on parle, il n'a même pas de terrain, il loue là où il habite. Là. Donc vous voyez, bien-aimé, en plein travail pour le Seigneur. Nous sommes en guerre. Moi, j'ai été dans une église à Paris où on s'est fait escroquer de la même manière. Le pasteur entre dans une boutique, il dit bonjour à quelqu'un, à une dame. La dame tremble et dit, mais j'ai senti une puissance. Vous êtes un homme de Dieu ? Le pasteur, comme il aimait la puissance, il était content, donc on a enlevé sa puissance chez lui. Et il a dit, ah oui, oui, mais de fil en aiguille, la femme lui dit qu'elle travaille à l'Élysée et qu'elle va essayer de voir Chirac, c'était Chirac à l'époque, pour nous trouver un endroit où prier régulièrement à l'Élysée. Mais c'est devenu donc le succès à l'église, on va aller à l'Élysée. On va... Cette dame est devenue une reine à l'église quand elle venait à l'église accueillir directement dans le bureau du pasteur, tout le temps avec le pasteur. Et moi, j'étais déjà à Rouen. Un jour, on m'appelle, on me dit, bon, on nous avait demandé 5 personnes. On a quand même pensé à t'inclure parmi les 5 personnes pour aller prier à l'Élysée régulièrement. Mais entre-temps, cette dame l'a retiré de l'argent. Elle avait un bobo par-ci. L'église donnait quelque chose. Un bobo par-là, l'église de... Elle a escroqué comme il faut jusqu'à ce qu'on ait découvert que c'était des mensonges. Mais vous voyez que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Tout ça, il va y avoir. Il va y avoir des faux frères. Il va y avoir des fausses sœurs. Il va y avoir des... Voilà, l'apôtre Paul en parle dans 2 Corinthiens 6. On va lire ça à un moment donné. Il va y avoir tout ça. Parce que nous sommes en guerre. Et donc quand on baisse de vigilance, on oublie qu'on est en guerre. On va dire, hey, c'est une aubaine, il y a le terrain, voilà. Or, le monsieur a déjà fait ça, c'est un plan qu'il a déjà préparé, de dire qu'il a été réveillé par le Saint-Esprit, tout ça. Les gens trop, trop spirituels vont dire, oh, mais vraiment, Dieu fait de grandes choses. Allez, on cherche... vous savez qu'un pasteur qui a fait des exploits dans le monde de évangélique, qui s'appelle Christian Pitt, il s'est fait avoir à la fin de sa vie. Christian Pitt, c'est lui qui a fait le livre « Lumière sur les témoins de Jéhovah »,« Lumière sur le branhamisme ». C'est des livres qui sont des trésors pour nous les chrétiens aujourd'hui. C'est un homme que tout le monde appréciait quand il était vivant. Il était correct, droit. Mais à la fin de sa vie, il s'est fait avoir. Quelqu'un lui a envoyé un mail comme quoi « Je suis en train de mourir, mais j'ai un grand héritage ». Et j'ai fait les enquêtes. Dans le milieu évangélique, on m'a dit que c'est vous qui êtes fait partie des plus sérieux. Et c'était vrai. Mais on va t'avoir là. Là où c'est vrai, là, c'est là où on va t'avoir. Vous faites partie des plus sérieux. Mais comme c'était vrai aussi, je dis, mais oui, c'est vrai. Je suis le plus... Ah, mes bien-aimés. Quand quelqu'un te vante, il faut faire toujours attention. Vous faites partie des plus sérieux. Donc moi, je préfère vous laisser cet héritage. Je vous fais confiance pour la gestion, pour les orphelins, pour beaucoup d'autres choses. Mais ça demande 9 000 euros pour débloquer auprès des banques l'héritage. Le pasteur n'avait pas cet argent. Il s'est endetté. Et c'était une escroquerie. Vous vous imaginez le parcours de Christian Pitt. Christian Pitt a affronté des ennemis plus grands que ces escrocs-là. Les témoins de Jéhovah. Vous savez, quand vous allez lire ce livre-là, ou bien voir la cassette « Lumière sur les témoins de Jéhovah », vous allez comprendre à qui vous avez affaire quand je parle de Christian Pitt. Lumière sur le Branham. Vous allez voir que c'est quelqu'un qui a fait des recherches. C'est quelqu'un, une fois, il est parti à Kinshasa et il avait dénoncé le branhamisme à Kinshasa. Il y avait des branhamistes dans la salle. Ils lui ont dit, voici la photo de Branham. Essaye de déchirer, tu vas voir, la foudre va tomber sur toi. Qui s'en prit, a pris la photo de Branham, il a déchiré. Rien n'est arrivé, tout le monde l'a acclamé. Mais c'est quelqu'un qui a fait des combats de haut niveau. Mais on est tout le temps en guerre jusqu'à... Car la mort, la guerre sera de longue durée. De longue durée. Armons-nous de cette logique-là. C'est de longue durée. Et à la fin de sa vie comme ça, je crois que peut-être qu'il en est mort. Puisque peu de temps après cette histoire, il est mort. 9 000 euros de dette. Et c'était une escroquerie. Vous savez, le choc est deux fois grave, c'est-à-dire le choc. Déjà les 9 000 euros que tu as empruntés. Et deuxièmement, un Christian Pitt qui se fait avoir. Vous imaginez la notoriété, tout ça est cassé. Il s'est fait avoir à cause de l'argent. Bien-aimé, le combat, la guerre est de longue durée. De longue durée. Attention, il va y avoir tous ces pièges-là, ces coups bas, il va y en avoir. Et dernier danger que je voulais citer, l'oubli du projet initial. Donc on oublie le projet qui est de faire de toutes les nations des disciples. On s'embarque dans un autre projet. Attention, bien-aimés. Le projet, c'est faire de toutes les nations des disciples. Je rigole, vous savez, quand on rencontre des gens à Leclerc ou je ne sais pas où, dans la ville, ou ailleurs, ils savent bien qu'on n'a plus la notre salle, mais ils n'osent pas nous le dire clairement. Alors ça va bien l'église. Avec une tête abattue. Moi, je dis, ça va bien, on a même quitté la salle. Ah oui, on a appris, mais oui, il fallait le dire directement. Mais ils sont tristes. Mais on oublie le projet initial. Le projet initial, c'est faire de toutes les nations des disciples. Est-ce que ça nous fait plaisir qu'on ait perdu la salle? Non, pas forcément. Mais on reste sur le projet initial, qui est de faire de toutes les nations des disciples, qu'on ait perdu notre salle. Ça ne change pas le projet. Vous voyez combien même au milieu chrétien, on peut être distrait et les gens ont une mine abattue plus que nous parce qu'ils se disent, mais comment ils vont faire? Mais on va faire comme quand Jésus existait, quand Paul existait, ces deux personnes-là n'avaient pas de salle régulière où se réunir les gens. Mais c'est eux, nos aînés. Bref, vous voyez combien on peut perdre le projet initial. Parce qu'on s'est mis dans des situations et on a finalement considéré ces situations-là comme étant le projet. C'est pas le projet. Le projet initial, c'est faire de toutes les nations des disciples. Restons dans le projet, bien-aimés. C'est très important. Ce sont ces dangers-là qui font qu'avec le temps, beaucoup se font avoir. L'amour de l'argent revient parce que on a négligé l'argent comme étant un danger. Attention, restons fermes avec nos ennemis de départ. Avec le temps, on a tendance à les sous-estimer parce qu'on a trop, on les a trop affrontés et on oublie qu'il reste des ennemis toujours. Attention. Pour clôturer, je vais dire ceci. Je vais donner des conseils pour rester vainqueur dans cette guerre de longue durée. Premièrement, nous devons nous souvenir du promoteur. Hein, qui veut construire? C'est Jésus qui veut construire. Il a dit, tu es Pierre et sur ce roc, je bâtirai mon église. C'est le Seigneur qui construit. Ça doit nous rappeler et nous donner la paix. C'est le Seigneur qui fait la guerre avec nous. Je serai avec vous tous les jours, Matthieu 28, 18 à 20. Je serai avec vous tous les jours. Sur toi, sur ce roc, je bâtirai mon église. Quand on se souvient de ça, ça doit nous tranquilliser. Hein, on se souvient de toute une prédication qu'on a faite intitulé « Souviens-toi du jour du repos ». C'est quoi le repos? À la différence de ce qu'on vient de dire, le repos dont on va parler là, dont on a déjà parlé, ça veut dire que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Je marche dans cette victoire-là. C'est mon jour de repos que de me souvenir de ce que Jésus a fait pour moi. Mais ça ne m'empêche pas de bosser. Je bosse, mais avec ce repos de la victoire par avance. C'est ça la différence. Je travaille, mais dans une attitude de repos, parce que mon Seigneur a vaincu à la croix. Il est le constructeur. Il est le promoteur. S'il est le promoteur, il ne peut jamais échouer. Jamais. C'est lui, le général en chef. Il ne perd jamais de bataille. D'ailleurs, la dernière bataille, comment ça va se faire? Un feu viendra du ciel, va consumer tout le monde. Donc, si Jésus veut se battre tout seul contre l'humanité entière, il peut le faire. Mais il nous utilise pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il veut nous construire à son image. Il veut que quand on va régner au ciel, ça soit digne de ce qu'on a fait sur terre. C'est tout. Mais il peut se battre tout seul. Il n'y a même pas de combat entre lui et les autres. Mais puisque c'est nous qui avons perdu la bataille au jardin d'Éden, il veut nous redonner la victoire sur les forces des ténèbres. Il veut être content de nous voir vaincre nos ennemis de départ au jardin d'Éden. C'est tout. Souvenons-nous du jour de repos. Du jour du repos. Souvenons-nous du jour du repos. Souvenons-nous du fait que Jésus-Christ a tout accompli pour nous à la croix. Et donc, marchons par la foi. Un chrétien ne doit pas faire confiance à ses actions, mais il doit faire confiance en Jésus. Et agir dans cette confiance-là en Jésus. Et se dire... J'ai agi dans l'obéissance au Seigneur. Par la foi, je sais que ce que je fais là va porter du fruit. C'est ça la différence. Donc même quand on te dit que ça n'a pas porté du fruit, tu ne crois pas. Tu sais que tout ce que nous faisons pour le Seigneur, 1 Corinthiens 15, 58 nous le dit, ce n'est pas en vain. Un troisième point, donc après le fait que Jésus, celui le prometteur, celui le général en chef, après le fait qu'on doit se souvenir du jour du repos, un troisième point c'est ne pas négliger l'organisation du Seigneur. On va lire ça dans Éphésiens 4, 11 à 16. Ne pas négliger cette organisation. C'est le Seigneur qui a établi les choses ainsi. C'est comme nous sommes un corps, le Seigneur est la tête. Mais oui, mais le sang pour arriver au doigt, ça doit passer par le bras. Donc on ne peut pas négliger le doigt, ne peut pas dire ben c'est le Seigneur qui est le chef, j'ai pas besoin du bras. Ah non, s'il n'y a pas le bras, ça n'arrive pas à toi le sang. Oui, Éphésiens 4, 11 à 16.
Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour.
Amen. Le Seigneur a établi cette organisation-là, les apôtres, les docteurs, les pasteurs, pour nous amener à être un solide édifice. C'est ça qui nous permet de vaincre l'ennemi. Quand on néglige ça, bien-aimé, on finit dans les erreurs. Aujourd'hui, bien-aimé, la tâche que nous avons est très grande, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas que Satan comme ennemi, mais nous avons comme ennemi, en quelque sorte, toutes les fausses doctrines qui circulent dans le christianisme. Toutes les faussetés qui circulent au nom de Jésus, tout ça se rajoute aux ennemis de base que nous avons déjà. Ça fait beaucoup. Mais si on n'est pas dans l'organisation du Seigneur, on ne fera rien du tout. Il y a, bien aimé, un travail de reconquête dans lequel nous sommes aujourd'hui. Le Seigneur s'est levé avec de nouveaux ouvriers pour faire la reconquête. Et la guerre est de longue durée. Et nous devons respecter les principes du Seigneur dans Éphésiens 4, 11 à 16. Nous devons respecter les principes du Seigneur quand il établit les anciens, les diacres. Nous devons respecter tout cela. C'est ça qui nous donnera la victoire. Quatrième point, bien-aimé, nous devons accomplir chaque tâche sérieusement. Chaque tâche, que ce soit le balayage, que ce soit la caméra, chacun dans son travail doit être sérieux parce qu'il doit se dire ceci. Après lui, les gens doivent se reposer sur une brique solide. C'est important, nous allons lire 1 Corinthiens 3, 11, 3, 5 à 15. Qu'est-ce que dit Paul ? Lui, il a travaillé comme un acheteur, il a mis les fondations pour que d'autres viennent poser. Maintenant, celui qui va poser, il va mettre un mur. Quelqu'un d'autre va venir mettre un autre mur sur ce mur-là, ainsi de suite. Donc, chaque travail que nous faisons doit être sérieux parce que quelqu'un va bâtir sur ce travail-là par la suite. Peut-être après notre mort, quelqu'un d'autre viendra. C'est très important. Chaque travail que nous avons dans l'œuvre de Dieu doit être fait avec sérieux, en résistant au vent contraire. C'est très important, oui. 1 Corinthiens 3, 5 à 15.
Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu.
Amen.
Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus.
Voilà. Oui, on continue.
Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun.
Voilà. Donc, l'apôtre Paul dit que chacun bâtisse avec un matériau sérieux, l'or, l'argent, quelque chose de sérieux. Il ne faut pas blaguer avec l'œuvre de Dieu. Croire que c'est l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Donc, ce que tu fais là, Paul dit, moi j'ai fait ma part. J'ai planté. Apollos a arrosé. Chacun fait ce qu'il a à faire. Et ailleurs, il dit, moi j'ai mis les fondations. D'autres vont venir poser autre chose. Mais que chacun fasse attention avec les matières laquelle il utilise pour poser ce qu'il a posé. Il faut poser avec la matière divine, l'or, la matière d'argent, avec le Fils de Dieu, les pierres précieuses, la puissance du Saint-Esprit. Il faut que tout soit dans cette logique-là. Donc, il faut que tout travail qu'on fait ici. Quelqu'un m'a appelé hier pour me dire, mais est-ce que ce que je fais comme travail, il fait un travail pour le Seigneur, il me dit, est-ce que c'est utile? Moi, je dis, avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Parce que quelqu'un aurait dit que c'est utile, donc c'est bon, non. Puisque c'est pour Dieu, c'est utile. Si ça ne se voit pas encore aujourd'hui, ça se verra plus tard. Ce qu'on fait pour Dieu avec sérieux, c'est utile. C'est l'Esprit qui nous a convaincus de le faire. Faisons-le même si ça ne semble pas porter du fruit, c'est utile. C'est parce que c'est pour le Seigneur. C'est fait en matière d'or, parce que c'est pour le Seigneur que tu fais cela. Tu ne fais pas ça pour toi-même. Si tu fais ça pour toi-même, d'accord. Mais si tu fais ça pour le Seigneur, c'est utile. Même si ça ne se voit pas encore aujourd'hui, faisons le travail avec sérieux. Vous savez, les Néhémie, pour bien comprendre tout ce que je suis en train de prêcher, il faut lire Néhémie, le livre de Néhémie, la reconstruction des murailles de Jérusalem. Vous allez voir la lutte qu'il y a à reconstruire, la lutte qu'il y a à bâtir l'œuvre de Dieu. Vous voyez que les Néhémie, qu'est-ce qu'ils avaient fait à un moment donné? Ils avaient deux groupes. Un groupe qui bâtissait les murailles, l'autre groupe qui avait une arme. Parce qu'il fallait se défendre des ennemis qui voulaient empêcher la construction. Donc il y a un groupe qui tenait les armes, un groupe qui était en train de bâtir les murailles. Mais bien aimé, il y a aujourd'hui des gens, lorsqu'on parle de l'intercession, de la prière, ils ne sont pas là, mais s'il faut prêcher, ils aiment aller prêcher, ils aiment aller chanter. Mais quand on parle de prière, mais les prières, c'est les gardiens là qui surveillent. Pendant que toi tu fais le travail, il y a des gardiens qui prient. Tout ça fait partie de la construction de l'œuvre de Dieu. C'est une guerre, bien-aimé. C'est une guerre. Et dans un autre passage, Néhémie, il y a des gens même, des faux prophètes qui ont été payés par ses ennemis pour lui prophétiser la peur. Donc, bien-aimé, quand vous lisez le livre de Néhémie, vous vous rendez compte du fait que nous sommes en guerre en faisant ce travail que nous faisons. Il va y avoir de fausses prophéties. Attention, c'est la guerre. Donc chacun doit prendre au sérieux la tâche qu'il a à accomplir. Au sérieux. Si tu es là pour ouvrir la porte, tu viens à l'heure. Parce qu'il y a des gens qui vont bâtir sur ce que toi tu fais là. C'est très important. Et il faut apprendre à regarder à la victoire finale assurée. Pour clôturer, c'est ça. Nous combattons dans la victoire. Nous combattons dans le repos de Christ. Ce que nous faisons ne sont que la mise en œuvre des œuvres que Christ a déjà accomplies en avance pour nous. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens 2, 8 à 10. Des œuvres préparées d'avance. Donc, ça va marcher. Ça va réussir. Même si ça ne donne pas l'impression, ça va réussir. Mais la guerre est de longue durée. C'est ça qui peut-être nous a lassés à un moment donné. Peut-être c'est ça qui a fait que tu as reculé. C'est peut-être ça qui a fait que tu n'es plus la personne qu'on connaissait avant parce que la guerre a été trop longue pour toi. Tu pensais qu'il fallait juste des attaques rapides, des attaques éclairs. Non, la Bible nous dit que la guerre a été de longue durée. Tenons sur la durée. La victoire finale est assurée. C'est ça que le Seigneur nous dit. Et je clôture avec... on va lire quelques passages pour nous fortifier et puis on va clôturer avec Josué 18, 3, 4. On commence par lire Hébreux 12, 1 à 12. Hébreux 12, 1 à 12. Ensuite, Philippiens 3, 12 à 14. Hébreux 12 plutôt, 1 à 12. Ensuite, moi, je vais lire Philippiens. Oui, Hébreux.
Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée.
Amen. On s'arrête là. Considérez Jésus. Vous savez, à l'âge de 12 ans, il connaissait déjà tout. Mais il a dû attendre 30 ans pour commencer le ministère. Ça a été long pour lui. Vous savez, à un moment donné, il a dit « Ah, jusqu'à quand resterai-je avec vous ?» Ça a été long. Mais il a tenu dans la longueur jusqu'au bout. Parce que pour nous, ça paraît court, mais pour Jésus, ça a été très long pour quelqu'un de pur, de saint, rester sur terre. Ça a été trop long pour lui toutes ces années-là. Mais il a tenu bon jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Et on nous dit, mais considérez, mais Jésus, qui n'a pas critiqué Jésus? On a même dit qu'il était Belzéboul. Aujourd'hui, dès que nous, on est critiqué, on est déstabilisé. C'est pas normal. La guerre est de longue durée, bien-aimé. Il y aura des critiques injustifiées. Il y aura des accusations fausses. Mais qui a été accusé plus que Jésus? Alors que c'était lui le plus parfait. Mais si le plus parfait a été accusé, calomnié comme ça, pourquoi pas nous? La guerre est de longue durée. Tout ça fait partie de la guerre. Il nous est dit, devant la carrière qui nous est offerte, on a une carrière, c'est-à-dire on a un projet qui nous est offert. Allons dans ce projet-là, avec celui qui donne la foi. C'est Jésus qui donne la foi. Faisons-lui confiance. Allons dans le projet. Je vais lire un Philippiens et le diacre va nous lire 2 Corinthiens 6, 1 à 10. Je lis Philippiens 3, 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus. Amen. Je cours pour remporter le prix. Chacun de nous est dans la guerre avec son parcours. Il faut courir jusqu'à remporter le prix. C'est long, mais la victoire est assurée. On doit aller jusqu'au bout. 2 Corinthiens 6, 1 à 10.
Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons. Nous vivons comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses.
Amen. Voilà tout le parcours d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu. Il y a des moments de gloire où tout est simple, tout est glorieux. Il y a des moments de difficulté. Paul, il venait de connaître la tempête, mais au sortir de la tempête, en plus, il y a un serpent encore qui le mord. Mais Dieu manifeste sa gloire, rien ne lui arrive. Tout le monde l'acclame, tout le monde le félicite. On l'amène auprès du gouverneur. Il prie pour le papa du gouverneur et le papa du gouverneur est guéri. Les malades viennent, ils ont... Ça, c'est la gloire. Il venait d'une tempête, mais là, c'est la gloire. C'est ça notre vie. Il va y avoir tout ça. Nous sommes en guerre. C'est une guerre de longue durée. Et Dieu alterne tout ça. Pourquoi ? Parce que Dieu, lui aussi, a son propre projet personnel. C'est quoi son propre projet personnel ? C'est faire de chacun de nous un Jésus. Voilà. Nous, il nous a demandé de faire de toutes les nations des disciples, mais lui, son projet personnel, c'est toi et moi. C'est pourquoi il y a toutes ces alternances-là qui servent à nous travailler pour sortir la perfection en nous, pour qu'on devienne comme Christ. C'est ça son projet à lui. Eh bien, on doit aller jusqu'au bout, que le projet du Seigneur réussisse. Et l'apôtre dit, mais j'ai vécu les séditions, j'ai vécu les rébellions, j'ai vécu les mensonges, j'ai vécu les jeûnes, j'ai vécu les trahisons, j'ai vécu tout ça. Je n'avais rien, mais j'ai tout puisque mon père a tout. Elle dit, mais j'ai vécu tout ça. C'est le parcours de Dieu. Mais à la fin, il dit, dans 2 Timothée 4, 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai gagné la bataille. Voilà, jusqu'au bout. Et je clôture avec Josué 18, 3, 4 que je vais lire. Josué dit aux enfants d'Israël, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ? Choisissez 3 hommes par tribu et je les ferai partir. Ils se lèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue du partage et reviendront auprès de moi. Amen. Alors je clôture en disant à chacun de nous, jusqu'à quand vas-tu rester à l'écart? Jusqu'à quand vas-tu rester sans la foi d'aller là, dans la conquête de ce que Dieu nous a donné comme travail, à l'effet de toutes les nations, des disciples? Il a dit, établis le projet du Seigneur, écris-le, bien-aimé. Ce que Dieu a mis à cœur dans ton cœur, il t'a mis à cœur, écris-le. Prie pour les choses que Dieu a mis dans ta tête. Va maintenant. Jusqu'à quand, bien-aimé, le Seigneur nous a donné l'autorité de faire de toutes les nations des disciples. Alors on y va, bien-aimé. C'est comme ça. Il y a des gens qui vont dire, vous allez trop vite. Et il y a des gens qui vont dire, quand on n'avance pas, oh non, mais vous êtes statique. Mais quand on fait des choses, ah, vous allez trop vite, bien-aimés. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent, nous ne devons pas écouter tout ça. Écoutons ce que Josué dit. Pourquoi traînes-tu pour récupérer ta famille dans le Seigneur? Pourquoi traînes-tu pour prier pour les gens qui travaillent avec toi au boulot? Pourquoi tu traînes pour mettre en œuvre le projet du Seigneur? Il t'a donné des ressources. Tout pouvoir m'est donné, Jésus a dit. Bien-aimé, moi j'aime l'image des combats du Moyen-Âge. Donc il y a un grand portail, donc on prend un bélier, c'est un gros tronc d'arbre. Allez, on enfonce jusqu'à ce que le portail cède. C'est ça la guerre que nous avons. Nous allons aller faire de toutes les nations des disciples. Ça paraît un projet trop grand pour nous. Mais c'est ça qui nous permettra de rester sur la voie. Le projet, quand on le voit, on continue. C'est vrai, quand on voit aussi le projet qu'il est grand, on a tendance à décourager. Qu'est-ce qui va nous aider aussi à tenir? C'est ce que nous faisons. Qu'on fasse ce qu'on fait actuellement bien. Si tu es en train d'adorer, adore bien. C'est ça qui te permettra de tenir pour le grand projet. Voilà, c'est vice-versa. Quand tu es ennuyé par ce que tu fais, tu regardes le grand projet. Quand tu es déstabilisé par rapport au grand projet, il est trop grand, tu regardes ce que tu fais aujourd'hui. Fais le bien. Donc, on alterne comme ça pour nous maintenir sur la voie. Mais ça suffit. On ne doit plus rester comme ça alors qu'on est vivant. On a la tête pour prier. On a les jambes pour marcher. Entrons dans le projet du Seigneur. Récupérons les territoires que le Seigneur nous a donnés en promesse. C'est à nous de mettre en œuvre et de récupérer ces territoires, quels qu'ils soient, dans le nom de Jésus, que Dieu... Il y a des choses à récupérer, bien-aimés, que les chrétiens aiment la parole de Dieu. C'est un territoire à récupérer. Aujourd'hui, les chrétiens préfèrent la parole des pasteurs plutôt que la parole de Dieu. C'est un territoire à récupérer. Il y a des télévisions à récupérer où on en va entendre l'évangile à la télé aussi. Parce que les gens ont droit à l'information, comme ils écoutent la météo, ils ont droit à l'information. Il y a beaucoup de territoires à récupérer, bien-aimés. Le territoire de la musique, où la musique chrétienne va être gratuite. Il y a des territoires à récupérer. Et le Seigneur te dit jusqu'à quand tu es dans l'expectative. Tu regardes seulement. Bien-aimés, levons-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous venons prier afin que tu nous aides à reprendre la guerre, Seigneur. Nous voulons reprendre la guerre au nom de Jésus-Christ. Nous voulons reprendre la guerre au nom de Jésus. Si on s'est arrêté quelque part, aujourd'hui c'est le jour où tu nous réveilles, Seigneur. Si on priait avant et que maintenant on ne prie plus, Seigneur, aujourd'hui c'est le jour où tu nous relances. Tu dis la guerre sera de longue durée et nous devons continuer, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur de nous faire comprendre ces choses, que quand nous ne sommes pas en train de combattre l'ennemi, lui nous combat quand même. Et si nous on ne le combat pas, on est en train de recevoir des coups qui vont finir par nous avoir par l'usure. Alors que si on combat, on empêche certains coups de nous atteindre, Seigneur. Merci de nous réveiller. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous nous attendons en toi, Seigneur. Purifie-nous de faux raisonnements humains. Libère-nous de la peur, Seigneur. Libère-nous de la peur, Seigneur.